Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Exprimez-vous sur l'actualité de votre choix, c'est la libre antenne, vous commentez tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine dans l'actualité française, africaine, internationale, vous savez que tous les sujets nous intéressent, aucun sujet n'est tabou, donc rejoignez-nous, prenez l'antenne, lancez le débat, 33 9 693 693 70, et vous nous contactez sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité, sans oublier, si possible, évidemment, de nous indiquer un numéro de téléphone en message privé pour que nous puissions vous rappeler, car le principe de cette émission, c'est de vous entendre, et c'est ce que nous allons faire maintenant avec plusieurs auditeurs qui nous appellent du Sénégal. Le Sénégal qui s'apprête à voter dimanche, ce seront les élections législatives, mais le pays est secoué par une polémique autour des nouvelles cartes d'identité qui sont indispensables pour voter. De nombreux Sénégalais, à l'heure qu'il est, n'ont toujours pas leur carte et n'auront pas leur carte d'ici à dimanche. Du coup, le Conseil constitutionnel a donné son feu vert pour que les électeurs sénégalais puissent voter dimanche avec leurs anciennes cartes d'identité, leur carte d'électeur ou bien leur passeport, ce qui ne fait pas l'unanimité. Bonjour Diaga.
Bonjour, bonjour Juan.
Vous êtes à Dakar au Sénégal et vous êtes assez en colère, vous, après la décision du Conseil constitutionnel.
Mais absolument, absolument Juan, parce que rappelons d'abord que le Conseil constitutionnel n'est pas législateur. Il y a une seule institution qui fait les lois, c'est l'Assemblée nationale. Et à ce propos, l'article 3 qu'évoque le président de la République, l'article 3 dit clairement que le droit de vote est sacré et doit être exercé par les Sénégalais des deux sexes dans les conditions déterminées par la loi. Mais c'est clair.
La loi électorale qui dit que pour voter, désormais, il faut la nouvelle carte d'identité, la carte biométrique dite CDAO. Donc pour vous, il y a violation du code électoral ?
Mais bien sûr qu'il y a violation du code électoral et c'est extraordinaire. Et de plus, Macky Sall le fait avec le ministre de l'Intérieur qui, au dernier référendum, c'est réveillé un beau matin pour nous dire que la machine est en panne, comme s'il travaillait encore avec sa massue. On ne sait juste ce qui s'y passe, s'il s'agit d'une panne matérielle ou d'une panne logicielle, ça suffit. Je vous garantis, hein, encore que dans un pays comme la France, où le président de la République est supposé être au-dessus de la mêlée, souvenez-vous, pendant 14 ans, François Mitterrand n'a mis les pieds rue de Solferino qu'au terme de son second mandat.
Oui, rue Solferino, le siège du Parti Socialiste.
Ah oui.
Oui, je rappelle ici ça aux pour les auditeurs.
Le président de la République, Juan, est président de l'APR, c'est-à-dire le parti au pouvoir. C'est lui qui fait les listes électorales, c'est lui qui désigne le président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui nomme les membres du Conseil constitutionnel.
Oui. Diaga, j'entends bien. Vous dressez un bilan très très négatif de l'action du président Macky Sall. J'aimerais qu'on s'intéresse surtout aux élections législatives de dimanche. Est-ce que vous ne chipotez pas tout de même, si vous me permettez cette expression, Diaga? Quoi qu'il arrive, les Sénégalais vont pouvoir voter dimanche. Ils voteront peut-être pas tous, et ce sera sûr, avec cette nouvelle carte, mais ils pourront voter avec leur passeport, avec leur carte d'identité. Au final, ils pourront voter. Est-ce que ce n'est pas là l'essentiel ?
Non, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est de voter dans les conditions déterminées par la loi. La Constitution est claire. Ou alors, la prochaine fois, que chacun fasse ce qu'il veut, et au dernier moment, faire montre d'un certain pragmatisme et de dire l'essentiel est de voter. Et de surcroît, Juan, qu'on nous dise maintenant ce document, qu'on n'arrive même pas à définir qui finalement sera délivré par un fonctionnaire, qui donc, ce fonctionnaire sera à lui tout seul le responsable qui aura confectionné le document, qui l'aura distribué, alors qu'il y a des commissions qui sont définies par la loi, auxquelles participe l'ensemble
Diaga.
Des acteurs politiques.
Bon, alors ne raccrochez pas, Diaga, on vous sent énervé, exaspéré. On va voir si Cheikh, qui nous appelle également de la capitale sénégalaise, partage ce sentiment. Bonjour Cheikh.
Bonjour Johan.
Bienvenue, nous vous écoutons à 48 heures des élections législatives. Dans quel état d'esprit êtes-vous ?
Nous, à 48 heures des élections législatives au Sénégal, aujourd'hui, Johan, nous sommes dans une situation scandaleuse. pour la première fois au Sénégal, on finance plus de 50 milliards pour la confection des cartes, y compris les cartes électeurs. Et aujourd'hui, il y a une bonne partie de la population sénégalaise qui n'arrive pas à avoir cette carte. Et le Conseil constitutionnel, qui vient de donner sa décision numéro 8, vient de donner une décision illégale, illégitime, anticonstitutionnel.
Ouais. Chèque, loi... Chèque, un petit mot d'abord, je vous interromps. Vous l'avez obtenu, votre nouvelle carte d'identité?
Oui, moi, personnellement, j'ai reçu ma carte d'identité, depuis fort longtemps d'ailleurs.
Mm-hmm. Mais quand l'opposition dit maintenant, avec ce feu vert du Conseil constitutionnel, on va pouvoir voter donc avec les passeports, avec les anciennes cartes d'identité, c'est la porte ouverte à la fraude. Est-ce que l'opposition n'exagère pas? Et quand je dis l'opposition, je pense notamment à Barthélémy Diaz, qu'on a entendu tout à l'heure dans un des reportages de Guillaume Thibault, notre correspondant au Sénégal, qui accuse le pouvoir de vouloir frauder.
Mais c'est clair, aujourd'hui, nous avons tous dit que la rétention, déjà, c'est une fraude mascarade organisée depuis fort longtemps par le régime et qui va s'entériner avec cette décision du Conseil constitutionnel qui va donner la porte à la possibilité au pouvoir de frauder au maximum pour ces élections. Aujourd'hui, aux sorties du dimanche, les résultats ne seront ni fiables ni transparents.
Alors, le pouvoir dit, mais il n'y a aucun risque de fraude puisque personne ne pourra voter dimanche sans son récépissé d'inscription sur la liste électorale. Donc, si vous n'avez pas ce récépissé, vous avez beau venir avec votre ancienne carte d'identité, la carte d'électeur ou le passeport, vous ne pourrez pas voter. Le débat est loin d'être clos. Vous aurez l'occasion certainement la semaine prochaine, avec Marie Cazadebé qui sera à ce micro, de dresser un bilan de l'organisation du scrutin de dimanche, et on verra effectivement si l'opposition a eu raison de s'inquiéter et de s'alarmer. Merci à tous les deux, Cheikh et Diaga. Bonne journée, bon courage à Dakar. En Guinée, une question revient systématiquement dans les conversations. Alpha Condé va-t-il réformer la Constitution pour lui permettre de briguer un troisième mandat? On en a longuement parlé hier et vu les centaines, vous avez été plus de 1500 à nous avoir contactés sur Facebook pour commenter cette polémique. Eh bien, on prolonge un tout petit peu le débat ce matin. Soumaïla, bonjour.
Bonjour, Juan. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur vos ondes.
Ben, je vous en prie, c'est normal. Je voudrais juste préciser à tous les auditeurs qui ne suivent pas l'actualité guinéenne, c'est que pour l'instant, le chef de l'État n'a exprimé aucune intention, mais il entretient le flou, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lui pose la question, il botte en touche. Du coup, l'opposition a vraiment l'impression qu'il y a anguille sous roche et que le président veut modifier la Constitution. L'opposition se mobilise. On a vu également des artistes cette semaine et la semaine dernière organiser des marches. La polémique, elle se justifie ou pas, selon vous, Soumaïla?
Non, pour moi, la polémique, elle ne se justifie pas. Parce que moi, je ne trouve aucune opportunité pour le moment de parler d'un troisième mandat d'Alpha Condé pour deux raisons. La première raison, c'est que le temps ne s'y prête pas. Quand vous parlez du troisième mandat d'Alpha Condé, ça ouvrirait même au sein de la mouvance présidentielle entre les acteurs une rude compétition pour la course au palais.
Oui, mais enfin, excusez-moi, c'est quand même la mouvance présidentielle, c'est quand même l'entourage du président de la République qui a lancé le débat, qu'à plusieurs reprises, on a pu entendre des ministres, des collaborateurs du président plaider pour un troisième mandat.
Exactement. Pour le moment, je pense que c'est aller vite en besogne, parce que quand vous parlerez du troisième mandat d'Alpha Condé en ce moment, ça détournerait les vraies questions du développement, parce que nous sommes seulement à 2 années du second mandat.
Mais alors pourquoi il ne répond pas? Mais excusez-moi, mais pourquoi il ne répond pas clairement lorsqu'on lui pose la question? Pourquoi Alpha Condé n'est pas clair? Et il se contente souvent de dire le moment venu, c'est le peuple qui décidera. Donc lui-même entretient le flou et la polémique.
Mais en démocratie, effectivement, c'est le peuple qui décide de tout. C'est pourquoi moi j'ai dit que c'est une agitation inutile pour ceux qui pensent qu'il y a une intangibilité contre le peuple. Parce qu'en démocratie, il n'y a pas d'intangibilité contre le peuple. Parce que le peuple, c'est le moins important, le plus important dans une démocratie.
Évidemment, mais enfin, la polémique en tout cas monopolise, et vous le savez bien, vous êtes mieux placé que moi, vous êtes sur place en Guinée, elle monopolise tous les sujets de discussion, les débats, on en parle à la radio, le sujet est commenté dans les journaux. Abdoulaye nous rejoint, il est également à Conakry. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour Juan, bonjour à tous les fidèles auditeurs de la Radio Mondiale.
Nous vous écoutons, soyez le bienvenu.
Alors Juan, sur cette question, moi je voulais juste dire que la Constitution a déjà tranché ça il y a près de 10 ans désormais. Donc le président Alpha Condé a été élu par cette Constitution-là, il a été réélu par la même Constitution. Donc à mon point de vue personnel, je pense que le président Alpha Condé, du point de vue de son nom d'opposant historique, il ne devait pas tenter de faire cela parce que tout simplement, aujourd'hui, comme vous venez d'ailleurs de le dire, c'est lui qui entretient le flou, il était très clair que lui-même qu'il s'adresse à la nation. Écoutez, à mon avis, il est en train tout simplement de jauger la réaction des gens en faisant intervenir ses collaborateurs sur ce sujet. À mon avis, c'est lui qui entretient le flou et c'est normal qu'il s'exprime pour la nation.
Et c'est normal donc à vous entendre que l'opposition s'inquiète et se mobilise ?
Bien entendu, parce que si l'opposition ne se tient pas prêt, et nous, surtout nous jeunes, si on ne se tient pas prêt pour pallier à cette mascarade qui est en train d'être préparée par le pouvoir en place, ça sera une conséquence, des conséquences qui vont nous suivre, encore une fois. Et c'est pour ça que je voudrais, excusez-moi, faire un petit appel à la jeunesse de rester très conscient de ce qui est en train de se passer et surtout, ne pas laisser le président tenter de le faire, sinon on va se lever et on va en tout cas empêcher cette...
Cas, pour l'instant, je vous dis, le chef de l'État n'a exprimé aucune intention, donc effectivement, ça donne lieu à des spéculations. Merci à tous les deux, Abdoulaye et Soumaïla. Là aussi, c'est un sujet ne manquera pas d'être à nouveau débattu dans les prochaines semaines dans cette émission. On en parlait tout à l'heure, dans la première partie de l'émission, cette fameuse rencontre à Paris mercredi, les frères ennemis libyens, Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement du non-national, et le maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est du pays, tous les deux autour du président français Emmanuel Macron. Bonjour Abou Karim.
Bonjour Juan, bonjour à toute l'équipe.
Merci de nous appeler. Et vous avez applaudi la démarche d'Emmanuel Macron, c'est ce que vous avez dit au Standard.
Absolument. J'applaudis comme j'ai applaudi ce matin quand on dit qu'on a maîtrisé les incendies du sud de la France. Donc actuellement, Emmanuel Macron agit comme un sapeur-pompier qui vient éteindre l'incendie qui avait été déclenché par le premier pyromane, Sarkozy, doublé de son mentor de l'époque, Bernard-Henri Lévy, pour mettre à feu et à sang toute la sous-région. Donc il vient pour essayer de maîtriser cet incendie et je souhaite simplement que ce soit un accord entre les trois, hein, qui soit respecté par l'ensemble et soutenu par toute la communauté internationale. Alors je souhaite
excusez-moi, vous applaudissez Emmanuel Macron, on l'entend, mais en même temps c'est un accord, vous le savez bien, qui est quand même très fragile. L'accord prévoit l'instauration d'un cessez-le-feu, sauf contre les groupes djihadistes, et l'organisation générale au printemps prochain. Bon, l'accord n'a pas été signé, c'est important de le dire, mais en approuvant ce texte, concrètement sur le terrain, ça ne change pas grand-chose pour l'instant.
Ça ne change rien pour l'instant, mais seulement, je ne souhaite pas aussi que ce soit simplement l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que ces dernières révélations où on dit que maintenant on va acheter des checkpoints qu'ils ont appelés hotspots dans les pays. Hotspots, c'est ça. Alors que ça ne soit pas une simple tentative de barrage de l'immigration clandestine à partir des côtes libyennes. Donc je souhaite que ce soit un accord qui soit faisable, puisqu'il faut absolument qui soit réalisé, bien sûr, avec l'accord de l'Europe, l'ensemble de l'Europe et de la communauté internationale. Mais si maintenant on fait cet accord, on le réalise, et que la paix entre dans ce pays-là, ce serait une bonne chose pour l'ensemble de la sous-région.
Évidemment, voilà, évidemment. Et on voit bien le chaos libyen, quelles sont les répercussions en Afrique de l'Ouest. Et vous êtes nombreux à nous le rappeler régulièrement sur l'antenne des RFI. Merci à Boukarim de nous avoir appelé. On suivra évidemment l'application ou non de cet accord sur le terrain avec l'ensemble de la rédaction du service Afrique des RFI. Bonne journée. Guillaume Soro, on en parle, il nous reste 5 minutes. Vous avez été très très nombreux en début de semaine à souhaiter réagir au mea culpa de l'ancien chef rebelle devenu président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. Il a demandé pardon aux Ivoiriens pour, je le cite, « toutes les offenses que j'ai pu commettre depuis 2002 ». Bonjour Achille.
Bonjour.
Vous nous appelez d'Abidjan, vous êtes donc Ivoirien. Vous acceptez, vous, le pardon de Guillaume Soro ?
Oh, je ne vois aucun pardon, c'est juste une grosse farce politique que Soro Guillaume fait aux Ivoiriens et à la communauté internationale. Il n'y a pas de pardon qu'il demande, c'est juste un gros calcul politique qu'il est en train de faire ce tour, à mon avis.
C'est-à-dire, quel est son calcul, selon vous ?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur l'échec politique ivoirien, il y a un traité qu'il faut pour gagner des élections, pour être homme politique crédible, il faut être proche du FPI et du PDCI ou proche du FPI ou du RDR, quelque chose. Il faut avoir toujours deux pour pouvoir gagner une élection. Et aujourd'hui, ce regard, on essaie de s'associer le FPI et le PDCI pour gagner contre le RDA. C'est tout, à mon avis.
D'accord. Et mais dans quel but ? Dans le but de se... Enfin, il se projette déjà dans la présidentielle de 2020 ? Enfin, j'ai essayé de développer un peu, parce que c'est facile de dire tout ça. C'est un scénario, enfin, tout ça, il y a des arrière-pensées politiques. Mais enfin, si vous ne développez pas, on a du mal à comprendre et à cerner votre analyse.
Ce que je vais dire, c'est que vous savez... depuis 2002 jusqu'à tout récemment, Soro Guillaume a toujours dit qu'il est responsable de ce qu'il a fait et qu'il a pris des armes pour apporter au Nord une certaine honorabilité. Donc, du jour au lendemain, Soro Guillaume ne peut pas faire mea culpa et dire que non, je regrette tout ce que j'ai fait. C'est quand même une insulte à la morale de ceux qui sont morts, à la mémoire de ceux qui ont perdu des vies, des emplois, des personnes chères. Mmh. Donc, je ne crois pas que ce soit vraiment un mea culpa. Un mea culpa de ce type, ça ne se fait pas juste à l'aéroport,
oui,
à mon avis.
Oui.
Donc, je crois que...
Donc, vous attendez davantage et vous attendez quoi ? Éventuellement qu'il s'exprime devant la justice ? Il ne peut pas y avoir pardon s'il n'y a pas justice ?
Ils ont toujours dit dans ce pays que le pardon est fils de justice. Donc, on ne peut pas nous dire un matin qu'à l'arrivée de Paris à l'aéroport, je demande pardon. C'est trop facile, à mon avis.
Oui.
Il faut des actes. Mmh. Et pour le moment, on ne voit pas d'actes de pardon. On ne voit que des mots.
Alors, justement, restez en ligne, Achille. Bonjour, Kofi. Allô, allô, Kofi Ayamoussoukro.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Bonjour, oui.
Ça y est, on vous entend, on a appuyé sur le bon bouton. Vous comprenez un peu la colère d'Achille à l'instant en disant c'est bien beau de demander pardon en arrivant à l'aéroport d'Abidjan après un séjour en Europe et voilà, on demande pardon.
La colère ne règle pas, je veux dire, la colère ne va pas s'ériger en mode, j'allais dire en comportement dans un pays. Il y a eu conflit, à un moment donné, il faut qu'on passe à la paix. Et je pense que Soro Guillaume est dans une logique de paix depuis 2012. Parce que chaque année, de 2012 à 2017, il a prôné le pardon. Je pense que son discours le plus marquant concernant le pardon, c'est le discours du 3 avril qui s'est passé, je pense, à l'Assemblée nationale.
Tout à fait.
Mais en fait, mon analyse en ce qui concerne ce pardon, pour battre un peu en brèche ce que mon prédécesseur vient de dire... les gens regardent tout dans un angle forcément politique. Dans tous les cas, ce n'est pas tous les Ivoiriens savent que Soro Guillaume a un destin politique. Donc, demander pardon, c'était du pardon qui importe. Et il faut suivre un peu la logique de Soro depuis 2012 jusqu'à maintenant, parce qu'il n'a rien fait pour empêcher la paix. Peut-être qu'au niveau du gouvernement, des actes forts n'ont pas été posés pour pouvoir, par exemple, libérer les prisonniers politiques qui sont et que tout le monde le recherche. Mmh. Mais ce n'est pas Soro qui gère l'exécutif.
Oui. Enfin, comme disait, excusez-moi, Achille disait, on attend des actes maintenant. Passons de la parole aux actes.
Oui.
Et au FPI, on dit, écoutez, s'il veut vraiment le pardon de Laurent Gbagbo, qu'il aille plaider la libération de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale.
C'est ridicule de dire ça, parce que aujourd'hui, bon, ça a été une erreur d'envoyer Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. C'est clair. Mais je l'ai dit, même si aujourd'hui Soro se lève pour aller, Soro a dit qu'il va demander pardon pour les fautes qu'il a faites. Mais ça ne veut pas dire du coup que on doit porter en torse au processus judiciaire qui se passe à la CPI.
Ouais.
Si Laurent Gbagbo est innocent, il sera innocenté.
Merci Kofi, je vous interromps, on est obligé de rendre l'antenne. Bonne journée à Yamoussoukro, merci.